Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans l'émission Culture Flip et nous sommes en direct du studio Gaco de l'IUT de Longnes. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Antoine, Maxime et Julie. Donc bonjour.
Bonjour.
Donc Julie et Maxime seront les chroniqueuses et Antoine sera à la régie. Julie et Maxime vont vous parler de leur chronique. C'est un sujet qu'ils trouvent intéressant et nous allons les écouter avec plaisir maintenant. Donc c'est à Julie qui va présenter sa chronique sur le carnaval de Dunkerque.
Alors, en effet, le carnaval de Dunkerque est un ensemble de festivités qui commence aux alentours de Mardi Gras et qui dure pendant 2 mois et demi dans l'agglomération dunkerquoise de début février à fin mars. Le carnaval de Dunkerque est l'un des carnavals les plus connus de France, tout comme le carnaval de Nice, par exemple, qui compte plusieurs centaines de milliers de spectateurs. Pour ce grand événement, qu'est le carnaval de Dunkerque, plusieurs bandes de carnavaleux se revêtent de leurs plus beaux déguisements, défilant dans les rues en musique sous la conduite d'une bande, qui est une ligne composée de tambours majors revêtus d'un uniforme napoléonien.
Salut, Acopina.
D'instrumentistes, dit la clique, et des carnavaleux. Après ces défilés, les carnavaleux se rejoignent le soir au bal organisé des associations philanthropiques qui veulent aider les autres, dans de grandes salles de l'agglomération. Le carnaval de Dunkerque compte aujourd'hui 50 000 participants, dont 5 000 réguliers.
Alors, après avoir écouté le début de votre chronique, j'ai une question à vous poser. J'aimerais savoir d'où vient le carnaval de Dunkerque.
Eh bien, c'est très simple. L'origine de ce carnaval serait liée à une fête possédant à ses frais un ou plusieurs navires, aux marins pêcheurs avant de partir à la pêche au hareng en Islande, dit la Foy. Le premier carnaval est connu et daté du 16 janvier 1676. Ce document était une ordonnance de magistrat qui réglementait les festivités de cette année-ci. Malgré cela, les festivités ont dû être interrompues pendant les deux guerres mondiales du 19e siècle. Puis le carnaval reprit en 1946 dans une ville complètement détruite par les bombardements de cette Seconde Guerre mondiale. De nos jours, le carnaval s'est ouvert à tout le monde et a mis tous les carnavaliers au même pied, d'égalité, peu importe leur âge, leur classe sociale et leur revenu. Comme nous pouvons le voir, chaque année, plusieurs traditions sont présentes lors du carnaval de Dunkerque, notamment les parapluies que l'on voit défiler partout dans les rues, appelés le plus souvent des pépins. Ces hauts parapluies colorés sont devenus de nos jours un emblème du carnaval de Dunkerque et y sont devenus indispensables. À l'origine, ce sont les paysans du 19e siècle qui se rendaient au carnaval accompagnés de leurs parapluies, puis avec le temps, les autres carnavaleux ont repris cette idée pour se moquer d'eux. Depuis, cette tradition se répète désormais chaque année.
D'accord, merci. Mais j'ai une autre question. Comment le carnaval se déroule-t-il ?
Eh bien, c'est très simple. Malgré ce que l'on peut penser, le carnaval de Dunkerque est très organisé, avec une heure bien précise de départ, d'arrivée et un trajet spécial déterminé. En effet, le départ se fait aux alentours de 15h. Les carnavaleux défilent dans les rues de Dunkerque sous le rythme de multiples musiques de carnaval. Vers 17h, les carnavaleux arrivent sur une place de la mairie pour le mythique lancer de hareng. En effet, environ 450 kg de hareng sont jetés du haut de la mairie. C'est aux abords de la nuit que les bals ouvrent leurs portes organisées par différentes associations dans les grandes salles de l'agglomération pour continuer la fête jusqu'au bout de la nuit. Le carnaval de nos jours a une grande influence. En effet, les bandes dessinées se nommant les carnavaleux, consacrées au carnaval de Dunkerque, a été sortie le 6 novembre 2013, écrite par Hervé Riget. Depuis, plusieurs tomes ont suivi ce premier ouvrage. De nos jours, il existe de nombreux carnavals dans le monde. Hormis le carnaval de Dunkerque, nous avons également en France le carnaval de Nice. Ce carnaval étant connu comme le plus grand de France, s'est fait connaître grâce à ses chars qui défilent dans les rues sous les yeux de plusieurs milliers de spectateurs. Le carnaval de Rio est aujourd'hui le plus grand carnaval du monde. Il se déroule du 21 février au 26. Pendant ces 6 jours de fête, près de 6 millions de fêtards seront présents pour célébrer le plus grand carnaval du monde. Tout comme Nice, des défilés de chars y sont organisés, mais ce carnaval s'est surtout fait connaître grâce à ces 45 000 danseuses sorties d'école de samba qui défilent toute la nuit.
Alors, merci d'avoir présenté votre chronique, donc je vais encore vous poser quelques questions. Nous sommes dans la région de Saint-Omer, pouvez-vous nous dire les carnavals que vous faites dans votre région ?
Y a le carnaval de Malo, le carnaval de Godvarsveld, le carnaval de Bayeul, le carnaval de Warmouth, le carnaval de Berg. Et il y en a encore plein, mais voilà, il y en a beaucoup.
Donc j'imagine que c'est une passion pour vous.
C'est une passion, mais c'est aussi un moyen de divertissement. Ça permet de rencontrer ses amis, de faire la fête avec eux, de passer un bon moment, de rigoler, danser.
Donc, si j'ai bien compris, le carnaval, donc dans, à peu près dans le nord, donc à Godarsveld, à Malo ou autre, n'est pas, est différent du carnaval de Nice, car tout simplement, le carnaval de Nice, on voit défiler des chars et des danseuses, tandis que dans le carnaval du nord, on est plus là à faire la fête et à s'amuser avec ses amis. Si j'ai bien compris, c'est ça.
Oui, en effet, c'est ça. Le carnaval de Nice est plutôt centré sur les défilés, les chars, tandis que le carnaval de Malo ou le carnaval de Dunkerque, qui se situe dans le nord, c'est vraiment une communauté de personnes qui se réunissent jour après jour, week-end après week-end, tous déguisés, tous maquillés et tous joyeux en train de faire la fête. Voilà quoi. Donc ouais, c'est complètement différent.
C'est une passion pour vous.
C'est un autre milieu.
Voilà, ça permet de se divertir.
Exactement.
Donc Julie, moi-même étant ayant fait le carnaval avec mes amis, j'ai le même sentiment que vous. Donc moi, en fait, quand je faisais le carnaval, je me sentais bien, enfin, j'étais avec mes amis, on dansait, on chantait. Et puis j'ai trouvé que c'était un endroit, enfin, un événement familial où il n'y a pas vraiment de bagarre. Tout le monde on est tous amis, tout le monde nous dit bonjour. Et par contre, on dit au carnaval un zutch. Mais pouvez-vous nous expliquer ce que c'est un zutch ?
Alors un zutch, c'est une manière de dire bonjour. Donc, donc ça s'effectue en fait entre deux personnes. En fait, pour se dire bonjour, les personnes sont obligées de s'embrasser, donc se faire un smack, plus communément appelé. Et du coup, voilà, c'est ça un zutch.
Merci, Julie, pour d'avoir répondu à la question. Quel est le déguisement général d'un carnaval, dans le Nord ?
Oh, alors le déguisement général, c'est... Plutôt, une personne va privilégier de mettre un kletch.
Qu'est-ce qu'un kletch ?
Un kletch, c'est un long manteau, généralement en fourrure. Donc il peut être de n'importe quelle couleur. Ensuite, les filles vont plutôt mettre un t-shirt par en dessous, vont mettre en bas une jupe, des collants, des barésies. Peu importe, c'est un mélange de vêtements colorés et stylés à la fin.
D'accord. J'ai eu l'occasion de découvrir le carnaval de Godarsveld. J'ai remarqué que oui, c'était un carnaval phare familial, qu'il avait une bande mais que ça mélangeait les chars. Donc en fait, si j'ai bien compris, ça mélange à la fois carnaval de Godarsveld, ça mélange à la fois le carnaval de Bailleul parce qu'il y a que des chars et carnaval de Dunkerque parce qu'il y a que des bandes.
Oui, c'est ça, parce que par exemple pour les chars peuvent venir de Bailleul, peuvent venir de Dunkerque, peuvent venir de Berg, peuvent venir de partout en soi. Le carnaval n'est pas destiné aux seuls habitants d'une ville. Tout le monde peut venir, c'est un endroit où tout le monde est sociable, personne ne jugera personne. Oui, c'est un mélange, comment on peut dire, de culture entre certaines personnes.
D'accord, merci beaucoup Julie d'avoir répondu à mes questions.
Avec grand plaisir.
Maxime, que pensez-vous du carnaval ? Avez-vous déjà fait carnaval ? Que pensez-vous ?
Alors oui, j'ai déjà fait carnaval. Par contre, Julie, elle a apporté plein d'informations historiques, etc. dans sa chronique. Donc j'ai trouvé ça hyper intéressant.
Et vous, que pensez-vous du carnaval quand vous l'avez fait ?
Je trouve ça super bien. Genre, il y a vraiment une bonne ambiance. Tout le monde se retrouve, même si on ne se connaît pas. Genre, on danse, on fait la fête ensemble. Et ce qui est drôle, c'est qu'à chaque fois, on retrouve les mêmes personnes au carnaval. Et ça, c'est un truc de fou, quoi.
D'accord, merci d'avoir donné votre avis. D'accord, merci Julie d'avoir présenté votre chronique sur le carnaval Dunkerque qui était très intéressante. Alors maintenant, nous allons écouter la chronique de Maxime qui va nous parler du langage des signes, si je ne me trompe pas.
C'est ça.
C'est ça. Donc Maxime, on vous écoute.
Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler culture et plus précisément de la culture sourde. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que la Journée internationale de la surdité se déroule le dernier samedi du mois de septembre chaque année et que la journée de la LSF est fixée au 25 septembre. Pour beaucoup d'entre nous, la culture sourde nous est inconnue. Pourtant, elle se développe d'année en année et réunit de plus en plus de monde grâce aux manifestations et aux mesures prises pour les personnes sourdes. Dans cette chronique, je vais volontairement utiliser le terme « sourd » et non pas celui de « sourd-muet », puisqu'une personne sourde n'est pas muette car elle émet malgré tout des sons. Pour commencer, du 25 septembre au 28 septembre 2019, l'ASP, donc l'Association des sourds de Poitiers, s'est mobilisée pour valoriser la culture sourde. Fondée depuis une dizaine d'années, pour la première fois, elle a organisé une manifestation sur plusieurs jours. Différentes activités y sont proposées, telles que des visites guidées en langue des signes française, donc LSF, des jeux, des artistes sourds, comme Sandrine Allier-Guépin.
Donc ces événements, si j'ai bien compris, c'est pour sensibiliser les Français à comprendre les personnes qui sont handicapées, qui sont sourds ou muets.
Exactement, c'est pour que nous, on apprenne plein de choses autour de tout ça, que ce soit des signes simples et des artistes.
Donc j'imagine que ça a été un succès et que les gens ont sûrement dû être... ont dû être sensibilisés et ont compris ce que c'était d'avoir une vie différente des nôtres par rapport au fait que certains entendent, d'autres n'entendent pas, certains ne savent pas parler, qui parlent en langage des signes.
Exactement, parce que tout le monde y était convié, petit, grand et sourd et entendant. Donc l'été est le signe des vacances, du soleil, mais aussi des festivals. Ils sont nombreux, mais difficile d'en profiter lorsque l'on est sourd ou malentendant. Pourtant, il existe des festivals adaptés à ce handicap, Confiote près de Poitiers et Inouï à Montpellier. Au Confiote, on y retrouve des chants, de la musique et des pièces de théâtre écrits et joués par des sourds ou des entendants. Quant au festival Inouï, il se déroule sur 2 jours avec le plein de comédies et d'opéra rock. Ce festival est né dans l'envie de partage, de connaissances, d'un langage nouveau, un nouveau regard sur la sourdité au travers d'une manifestation culturelle et linguistique qui continuera, on l'espère, son chemin.
Donc, j'ai une question. Vous avez parlé du mot Confiote.
En fait,
pouvez-vous nous expliquer ce que c'est ?
En fait, c'est un festival qui est près de Poitiers. Donc, c'est un festival qui, comme je le disais, il y a des pièces de théâtre, de la musique, etc.
D'accord, merci.
Dans la vie de tous les jours, ce handicap peut vite devenir un obstacle. Difficile d'aller en mairie et de demander des informations ou même une demande de passeport, car les agents de mairie ne sont pas formés à la langue des signes, ou du moins quand ils le sont, cela reste des exceptions. Cela montre donc que dans le milieu du travail, et notamment les métiers qui demandent d'échanger avec les autres, il y a une absence de l'apprentissage de la langue des signes ou des signes courants. C'est pour cela que dans certaines villes, et c'est le cas de Nantes, qui a installé une plateforme qui permet de mettre les personnes sourdes en relation vidéo avec un traducteur LSF. Grâce à elle, les personnes sourdes peuvent désormais échanger avec les employés municipaux et effectuer leurs démarches administratives. Il y a également une proposition de loi enregistrée le 22 octobre 2019 qui demande un interprète bilingue LSF dans chaque mairie afin de faciliter les échanges entre sourds et entendants.
J'aimerais vous poser une question. Vous avez l'air d'avoir pris du goût à faire cette chronique, mais... est-ce que vous avez déjà enseigné, fait quelques cours de langage de signes ou d'avoir eu des enfants en face de vous qui faisaient du langage de signes ou qui n'avaient pas du tout parlé ou qui étaient sourds ou malentendants ?
Alors, dans ma famille, j'ai quelqu'un qui est sourd. Donc, pour communiquer avec lui, on est obligé de faire de signer. Donc, je sais signer et je comprends la langue des signes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec des enfants, il y a une langue des signes particulière. C'est la langue des signes pour bébé et c'est d'autres signes.
Donc, voilà. C'est... un peu difficile à apprendre quand même. On va pas tout savoir du premier coup.
Il y a des mots ou des signes qui sont faciles à comprendre.
Pouvez-vous nous donner un exemple ? Par exemple, quand on dit bravo à ce qui paraît, quand on dit un bravo à un sourd malentendant, on doit lever les bras et secouer les deux mains.
C'est ça.
D'accord.
Plus les années avancent et plus l'accès à la culture sourde sera facile pour les générations futures, car depuis maintenant plusieurs années, les lycées, voire collèges, proposent un enseignement LSF choisi comme une option. Les élèves apprennent donc à signer, mais aussi toute la culture autour de cette langue. Cet apprentissage est bien plus que bénéfique, puisque cela permet d'ouvrir des portes pour de futures études, voire même pour le monde du travail, mais aussi une ouverture d'esprit autour de ce handicap qui touche aujourd'hui plus de 4 millions de Français. Depuis tout à l'heure, je vous parle de culture sourde, mais savez-vous vraiment ce que cela signifie ? Eh bien, c'est très simple, elle représente l'ensemble de savoirs, de pratiques, de règles sociales au sein de l'ensemble des sourds. Ce terme est apparu dans les années 70 et continue de se développer aujourd'hui. La créativité des sourds se manifeste en premier lieu avec la langue des signes. Ils excellent également dans le spectacle vivant et l'audiovisuel. Beaucoup d'artistes sourds et entendants se regroupent afin de créer ensemble des œuvres touchantes et adaptées à tous les publics. Toutes ces idées, innovations culturelles ou non, permettent d'illustrer que la culture sourde et la société entendante peuvent désormais coexister sans s'exclure mutuellement. Et pour que cela perdure dans le temps, il faut arrêter de penser que la sourdité est une déficience à réparer ou une anomalie à corriger.
D'accord, je vous remercie Maxime.
Merci.
Donc, dans votre chronique, vous avez voulu passer un message aux personnes qui vont écouter la, la radio comme prendre peut-être des cours ou essayer de comprendre comment vit un malentendant.
J'aimerais vraiment que tout le monde apprenne du moins les signes du quotidien pour venir en aide à une personne sourde, que ce soit dire bonjour, merci, s'il vous plaît, j'ai mal, voilà.
Pour qu'ils comprennent la personne sourde et pour que la personne sourde ne se sente moins seule.
C'est ça.
Et se sente égale avec les autres personnes.
C'est ça. Qu'elle n'ait pas besoin à chaque fois d'écrire.
Ouais, voilà, je comprends. Maintenant, je vais poser une question à Julie sur la chronique de Maxime. Pouvez-vous nous dire votre avis sur la chronique de Maxime qui a quand même été très intéressante et très touchante?
Bah, franchement, c'était une bonne chronique parce que je pense que la culture sourde, on vit quotidiennement avec des personnes sourdes sans pour autant leur prêter attention. Et le fait d'en parler, bah, c'est bien parce que c'est un sujet parfois tabou, les gens n'osent pas aborder. Et le fait d'en parler comme ça à la radio, quand tout le monde nous écoute, tout, c'est un bon moyen de casser cette barrière en fait, qu'il y a entre, par exemple, les personnes normales comme nous, même si ce n'est pas trop approprié, et les personnes sourdes qui ont du mal à communiquer avec nous.
D'accord, donc vous avez bien compris le message que Maxime a souhaité passer dans sa chronique.
Oui, exactement.
Donc vous ferez la même chose maintenant, vous allez apprendre le langage des signes et tout.
Apprendre, oui. Après, dans ma famille, j'ai aussi également deux personnes âgées sourdes. Bah, c'est dans ma famille éloignée, mais quand même. Donc je connais déjà quelques bases. Donc oui, mais ça donne envie d'en apprendre plus, de s'initier dans cette formation.
Alors oui, mais on peut dire notamment que certaines chaînes sensibilisent aussi au langage des signes, comme par exemple, moi j'avais déjà regardé la télé et je suis tombé sur Gulli, je suis tombé sur une émission d'une personne qui apprenait le langage des signes, donc je pense que même la télévision s'y est mise, donc pour moi toutes les chaînes devraient au moins présenter une petite émission au soir de 5 minutes, même pas, ouais, 5 minutes à peu près, pour expliquer différents moyens du langage des signes. Que pensez-vous, Julie et Maxime?
Tout à fait, il y a eu vraiment des progrès par rapport à ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de films, notamment sur TF1, qui sont proposés en audio-description. Et ça, c'est vraiment hyper intéressant. Par contre, pour moi, ce qui manque, c'est vraiment au niveau du cinéma. Genre, il n'y a rien. Très clairement, il n'y a rien.
Tout à fait,
il n'y a rien. Et donc, voilà, je pense que toute personne sourde a envie aussi d'aller au cinéma et de profiter des films qui sortent. Donc voilà, c'est juste à ce niveau-là.
Très bien. Maxime, merci d'avoir répondu à mes questions.
Okay.
Alors, je vous remercie de nous avoir présenté vos chroniques qui ont été vraiment très intéressantes. Donc, pour les auditeurs qui ont été touchés ou qui ont des questions ou qui souhaiteraient réécouter l'émission, n'hésitez pas à nous retrouver sur le site studiogaco.fr. Donc, je vous souhaite une bonne journée à vous tous et on se retrouve très vite dans Culture Flip.